his ticket. And he thought about it all week.
Don't wait until it hits you. Get vaccinated. Beginning in September, you'll need a vaccination passport to enter certain public spaces. A message from the Gouvernement du Québec.
Sécurité, les vibrations de la communauté. Sécurité FM 90.3.
The following is a previously broadcast program.
Touche pas à mes droits. Le podcast juridique local.
En raison de son profil d'homme noir, ce qui constitue du profilage racial.
On parle de quoi?
De profilage racial.
N'attends pas, informe-toi.
On est là pour ça.
Il se pose la question à savoir, si c'était un homme blanc qui était dans la même situation, est-ce que le traitement aurait été le même?
Et salut à tous, bienvenue au MJSM Radio et Studio. Nous sommes là aujourd'hui pour notre nouvelle émission spéciale. Et vous savez, on va parler de quoi? De droit. Alors, Touche pas à mes droits est votre nouvelle émission spéciale avec, en collaboration avec la clinique juridique de Saint-Michel qui va passer tous les lundis sur leurs réseaux sociaux. Alors, je suis là aujourd'hui avec deux collaboratrices. Salut Hiba et Abigail qui vont se présenter et qui vont nous parler c'est quoi la clinique juridique et c'est quoi Touche pas à mes droits. Salut Hiba.
Salut Fafa, merci pour cette belle introduction. Alors effectivement, par contre, petite clarification, pardon, donc l'émission va passer un lundi sur deux avec la clinique juridique Saint-Michel. En effet, sur tous les réseaux, vous pouvez nous retrouver sur Instagram, Facebook, très facile, clinique juridique de Saint-Michel. Et vous allez voir, on fait du bruit parce qu'on est là pour parler de nos droits justement. Alors effectivement, le nouveau podcast Touche pas à mes droits, c'est fait en collaboration avec la ville de Montréal, le forum jeunesse de Saint-Michel, Néolabs qu'on remercie d'ailleurs, mais surtout grâce aux bénévoles. Donc je vais introduire justement ma collègue Abby qui va se présenter.
Bonjour, c'est Abby Gaillet, je suis étudiante en droit en deuxième année et je suis d'origine latino-américaine, plus précisément du Guatemala et du Salvador, et je suis vraiment contente d'être ici avec vous pour parler de nos droits, pour parler notamment sur le profilage racial.
C'est bien en fait que tu parles des origines parce qu'effectivement la clinique juridique Saint-Michel, c'est ça, c'est ce mélange d'origines de jeunes bénévoles qui viennent de partout mais qui se rassemblent en fait pour nos droits. Je salue également la chef de projet Lina qui est avec nous et voilà, moi si on en parle, je suis d'origine marocaine, mais l'important c'est qu'on est tous là pour nos droits et justement c'est ce que fait la clinique juridique Saint-Michel. Elle travaille pour avoir un accès à la justice avec des bénévoles qui sont là bénévolement, des étudiants en droit de partout, dans toutes les universités du Québec qui viennent, qui donnent leur temps pour des permanences, pour des projets spéciaux. Et puis ce projet dont on a l'honneur d'y participer, qui est Touche pas à mes droits, qui va parler du profilage racial. Et on sait tous, n'est-ce pas, Fafa, n'est-ce pas, Abby, que voilà, donc le profilage racial, c'est le sujet de l'heure, mais c'est la réalité de toujours. Mais, alors les amis, Fafa, Abby, je ne sais pas pour vous, mais pour moi, la meilleure manière de commencer à parler de ça, c'est avec le fondateur même de la clinique.
Bien sûr,
Fernando Beltran. Alors, Fernando qui devient de plus en plus connu à Montréal, qui lutte, qui vulgarise justement le privilège racial, mais qui est surtout le fondateur de la clinique juridique de Saint-Michel, qui fait un travail merveilleux. Bonsoir,
Fernando.
Bonsoir à tous, merci de l'invitation.
Comment ça va, Fernando?
Écoute, on est super excités, ça fait plusieurs semaines, plusieurs mois qu'on travaille sur ce projet-là, puis finalement de voir l'aboutissement, de voir tout le monde qui a mis beaucoup de travail là-dessus. Je vais rectifier que je suis le co-fondateur de la clinique. On était deux avec tous les étudiants. Puis je remercie, tu l'as déjà fait, mais Lina et notre coordonnatrice Rita,
oui,
qui ont fait un gros travail pour nous emmener là. Et bien sûr, Momo du Forum Jeunesse de Montréal. Donc je suis super excité d'être avec vous ce soir.
Merci beaucoup, Fernando. On est très excités aussi, effectivement. Puis je pense que c'est pas seulement ce projet-là, mais tous les projets que fait la clinique. C'est du travail acharné, comme j'avais dit, pour en fait nos droits, en fait, pour avoir une activité à la justice. Alors je pense que, comme on sait que ce podcast-là, donc Touche pas à mes droits, parle du profilage racial, on va mettre un peu en contexte les choses et l'histoire de la clinique avec le profilage racial. Donc on sait que surtout avec le mouvement de Black Lives Matter, avec la mort de George Floyd, il s'est passé comme un réveil, si on peut dire. Et la clinique a décidé d'emprunter le pas aussi et de faire sa part à ce niveau-là. J'aimerais qu'on parle du marathon. Donc, le marathon qui a eu lieu le 20 juin passé, c'est un marathon de 12 heures avec d'autres avocats bénévoles, je pense à Madame Maître Boumfetter, ainsi que toi, Fernando, et les bénévoles de la clinique qui avaient fait 12 heures de témoignages, 12 heures de parler de ce sujet-là, pour également lever une levée de fonds un peu pour la clinique. Donc, parle-nous de ce marathon-là, et j'en profite également pour te poser la question un peu, à savoir, dans le fond, avec la vague dénonciation du Black Lives Matter suite à la mort de George Floyd aux États-Unis et les mouvements internationaux qui se sont suivis donc partout à travers le monde, est-ce que tu t'attendais à recevoir autant de témoignages de privilège racial de la part des Québécois et Québécoises?
Okay. Pour remonter un petit peu, il faut comprendre que notre action à la clinique juridique de Saint-Michel pour le profilage racial remonte, c'est sûr, avant le mouvement, parce qu'on est à Saint-Michel, c'est une question qui nous a toujours intéressés. Et on avait déjà constitué une petite équipe qui commençait déjà à aider des avocats à travailler sur des vrais dossiers. Maintenant, la question du marathon vient de deux mouvements qui se sont passés en même temps. De un, il y a qu'est-ce qui s'est passé aux États-Unis qui, en fait, a mis une lumière sur la problématique de la brutalité policière partout dans le monde. Tout le monde a été choqué, indigné de voir qu'est-ce qui s'est passé. Et parallèlement à ça, il y a eu toutes les histoires qui se sont passées ici à Montréal. Il faut comprendre que les médias décident de s'intéresser ou non à une chose quand d'autres personnes commencent à en parler. Donc, des arrestations brutales qui ont eu lieu sur la place publique et des gens qui ont commencé à trouver, à chercher des gens pour commenter. Et j'ai eu la chance de pouvoir participer à tout ça. Et dans une des discussions que j'avais avec un de nos collaborateurs, qui est Wenzor d'Ashington, que je remercie, que je salue, qui a fait un très gros travail pour mettre en lumière le profilage racial à Montréal, on discutait, on s'est dit, pourquoi il y a encore des gens qui doutent, à savoir est-ce que ça existe ou pas. Et on s'est dit, comment on peut faire pour être en mesure de mettre en lumière ce qui se passe? Et l'idée est venue, pourquoi on ne fait pas un marathon? Donc 12 heures de temps, pendant lequel les gens viennent et donnent des témoignages. Est-ce qu'on avait une crainte à savoir est-ce qu'on aurait reçu assez de témoignages? La réponse, c'est non. On savait que les témoignages étaient là. Mais notre plus grande crainte, c'est comment on fait pour rassurer les gens, pour les mettre dans un contexte parce qu'ils ont envie de se confier, de parler. Mmh. Et c'est là que le rôle de Renzel est important, parce que le fait qu'il avait ce contact avec les gens et qu'il nous a prêté sa plateforme, ça nous a permis d'avoir exactement le bon forum. Et je dois te dire, ce qui m'a étonné, c'est surtout... moi, j'ai entendu des histoires d'horreur dans ma carrière, je suis avocat criminaliste, mais ce que j'ai entendu lors du marathon, ça m'a profondément secoué. Mmh. Oui, je savais que le profilage racial existait, mais des histoires vraiment qui te font dresser tous les poils sur ton corps. Donc, ça a été très révélateur. Ce n'est pas une étude scientifique, mais vous devez comprendre qu'on a eu 51 personnes qui ont témoigné en 12 heures et il y a beaucoup de personnes qui n'ont pas pu passer parce justement. Qu'ils n'avaient pas eu le temps. Beaucoup de personnes qui ont annulé leur participation parce que justement, ils devaient attendre trop longtemps sur la ligne. On aurait pu faire facilement un autre 12 heures et on aurait eu beaucoup plus de témoignages. Donc, ça, c'est pour nous. Ça nous dit que oui, ça existe ici aussi au Québec.
Mais justement, puis je pense que c'est très important que ce marathon de la clinique, justement, parce qu'il y a encore cette incompréhension face à ce sujet-là et le fait que les gens disent « mais non, ça n'existe pas au Québec, ça n'existe pas à Montréal ». Donc effectivement, ça a mis la lumière sur ça. Et là, le marathon a été de manière digitale, bien sûr, donc sur Instagram, sur les réseaux sociaux. Qu'est-ce qui t'a fait réaliser, ce marathon t'a fait réaliser sur l'ampleur des médias sociaux et leur capacité à faire passer des messages? Mais avant que tu répondes à ça, j'aimerais poser la question à toi, Fafan, en tant que jeune, au secondaire.
Oui, je quitte ma soirée.
Alors, toi en tant que jeune, comment tu trouves l'ampleur des réseaux sociaux par rapport à
Moi, je suis présentée par la Clinique juridique de Saint-Michel,
en collaboration avec le Forum jeunesse de Saint-Michel,
Néolabs, la ville de Montréal,
et en partenariat avec les Alliances pour la solidarité et le ministère du Travail, de l'Emploi et de la solidarité sociale.
Je pense que cette fois-ci, parce que tu sais, ça fait longtemps qu'il y a ces problèmes, cette problématique-là, mais cette fois-ci, les réseaux sociaux ont pris beaucoup d'ampleur parce que j'ai beaucoup d'amis qui sont encore plus intéressés au sujet. Si on en parle, tu sais, il y a Tammy Rice, il y a tout ça. Et avant George Floyd, il y avait des personnes. Mais comme vous l'avez dit, je pense à réveiller les gens. Mm-hmm. Et les gens, ils sont informés plus que sur quoi le profilage racial. Ils sont allés chercher la base, comment ça a commencé. Et tout à coup, moi, mes amis qui m'ont texté, qui m'ont dit, mais tu sais, ça remonte à quand? On dit, ça remonte à l'esclavage. Il y a toute une historique derrière ça. Et je pense que c'est ça qui est important. Mm-hmm. C'est que nous, les jeunes, on a voulu savoir plus, on a voulu creuser pour savoir d'où ça vient, comment ça a commencé. Et ça permet tellement... Moi, j'étais impressionnée, sincèrement. J'étais totalement impressionnée par cette vague. Je dis, mais waouh, c'est enfin on se réveille, enfin on entend droit et enfin surtout les jeunes. Les jeunes, il y a des témoignages de jeunes, je trouve qu'il est très important. On met ce côté jeunes qui sont aussi victimes à Montréal. J'ai beaucoup de jeunes qui maintenant filment et mettent sur les réseaux sociaux, qui n'ont plus peur. Parce qu'avant on dit filmer, mais ils avaient peur. Maintenant qui filment parce qu'ils savent qu'il y a des gens, il y a même des avocats qui écrivent, tu sais, quand tu es devant la police et ça, tu peux filmer, c'est ton droit et des trucs comme ça. Mais c'est vraiment génial. Mm-hmm. Je pense que les réseaux sociaux, ça nous outille, ça nous informe vraiment.
Exactement, Fafa. Et toi,
Le grand, je vais vous donner, je vais vous illustrer mon point de vue là-dessus par un exemple qui est très éloquent à mon sens. Je reçois l'appel de Radio-Canada. On me dit, oh, Maître Belton aimerait vous interviewer sur tel ou tel sujet. C'est un exemple que je donne, ok, c'est pas un exemple réel, mais je vous donne un exemple comment ça se passe. Donc tu vas avoir le journaliste qui arrive, il va te poser environ 6 ou 7 questions, le tout peut durer 15 à 20 minutes. Et quand tu arrives sur le montage final, tu vas avoir un clip de 30 secondes sur absolument tout ce qui a été dit, qui en fait rentre dans le format média, ok. Et ça fait en sorte que souvent, le message que tu veux donner, tu n'arrives pas à le passer.
Exactement.
Parce qu'il y a toujours un intermédiaire entre la source, donc moi qui parle, et l'interlocuteur qui doit recevoir le répondeur, qui doit recevoir le message, entre il y a le média. Et l'avantage des médias sociaux, c'est qu'on enlève l'intermédiaire. C'est-à-dire que le marathon nous a permis de parler directement aux gens, sans filtre, sans personne pour essayer de formater le message, sans personne pour venir nous... tu sais, moi, j'ai déjà eu des interviews où est-ce que la clip qui est prise correspond totalement, c'est totalement à l'opposé de ce que je voulais véhiculer comme message. Les gens victimes ont parlé directement aux gens qui voulaient écouter leur témoignage et c'est ça le plus grand avantage des médias sociaux.
Exactement, parce que je voulais justement demander est-ce que se trouve que c'est un peu une épée à double tranchant, mais...
Une épée à double tranchant, ça dépend. C'est sûr que le fait qu'on n'a pas... Tu sais, dans le marathon, il n'y avait pas de montage, tout était live. Donc, c'est sûr que les gens ont accepté de prendre un certain risque à raconter leur histoire. Mais je dois vous dire que si on doit faire l'analyse coût-bénéfice, ces gens-là, ça a été comme une genre de thérapie communautaire pour tout le monde de venir en parler. Et pour nous, à la clinique, chaque fois qu'on s'en rappelle, ça nous aide à savoir pourquoi on est en train de faire ce qu'on fait. Cette émission-là, c'est le résultat de ce marathon parce qu'on s'est dit comment on peut faire en sorte qu'on perpétue qu'est-ce qui s'est passé. Parce qu'une fois que je fais des morts, une fois que les médias ont fini d'en parler, il doit y avoir des gens qui restent dans l'actualité publique et qui continuent à garder ce message-là très fort et très vivant.
Mais je pense que ça a permis une certaine liberté aussi. Donc, ça a permis aussi aux personnes de se dire plus tard, « Oh, si ça m'arrive, je peux aller les voir.
Exactement.
Maintenant, je peux aller m'adresser à eux. Ils vont m'écouter, ils vont m'aider. »
Exactement.
Je trouve que c'est vraiment bien.
Les gens qui sont victimes aujourd'hui savent qu'il y a des ressources qui existent, qu'il y a des façons de faire valoir leurs droits. Parce qu'il faut comprendre, pour le bénéfice de l'auditeur, au-delà des témoignages qu'on a reçus, il y avait moi et Maître Nada Boumifta qui étaient là entre chaque segment pour venir conseiller les gens, pour analyser le volet juridique de la chose, de sorte que les gens puissent savoir mais quand ça vous arrive, voilà qu'est-ce que vous devez faire. Et cette conscientisation-là, elle est importante parce que beaucoup de personnes, ils hésitent à en parler. Il y en a qui ont honte, des gens qui ont été humiliés devant leurs parents, c'est très difficile. Devant leurs enfants, je veux dire, c'est très difficile, ils ont honte d'en parler. Vous allez voir des hommes très musclés, etc., qui sont en train de parler de ce qu'ils ont vécu de dégradant par la police. Ils ne veulent pas venir parler de ça sur la place publique, mais cette porte ouverte-là leur a permis.
Oui, je suis contente que tu as utilisé le terme thérapeutique. C'est vrai que c'est très thérapeutique pour eux, mais c'est aussi très motivant et empowering pour tout le monde tout autour pour dire « Ok, on a un rôle à jouer, c'est une chose qui se passe, une réalité actuelle, il faut faire quelque chose. » Je ne sais pas si je peux vraiment te poser cette question, mais quel témoignage t'a le plus touché? C'est quelque chose qui est vraiment venu chercher et que
ben,
tu peux
ça,
le partager?
Ça, je peux vous le partager. Les témoignages étaient menés par Renzo, donc c'est lui qui parlait aux gens. Nous, on ne parlait pas aux gens comme avocat. On venait par la suite, moi et Nada. Mais Renzo, pendant 12 heures, il y a besoin d'un break. À un moment donné, et là, il dit, Fernando, fais la prochaine interview. Et des fois, moi, je crois en Dieu. Je pense que des fois, Dieu fait des choses de manière incroyable parce que les astres étaient alignés pour ce témoignage-là. La personne qui nous a répondu, qu'on a interviewé, c'est une personne qui était présente lorsque Fredine Villanueva s'est faite assassiner. Il était là. Okay? Et c'était la première fois que j'écoutais cette histoire-là. directement d'un des acteurs. Moi, j'ai analysé cette situation-là, je l'ai commenté. Il y a même une pièce de théâtre qui avait été faite, à laquelle on m'a invité pour venir parler par la suite des impacts du profilage racial. Donc, je trouve que je parlais beaucoup pour quelqu'un qui connaissait si peu de ce qui s'était passé. Parce que quand j'ai entendu cette histoire-là, ça m'a vraiment choqué. Mm-hmm. Et tu sais, quand tu parles de toucher, il faut que tu comprennes, moi, Nanda était presque en larmes. Moi, je shakeais tellement que je me suis rendu compte à quel point une situation peut dégénérer rapidement avec la police. Il y a un terme qu'il a utilisé, je m'excuse, j'ai oublié le nom du jeune, mais il y a un terme qu'il a utilisé quand il parlait de quand le policier a sorti son arme, il a dit qu'il a balayé son arme sur nous. Tout le monde, à part lui, a reçu une balle cette journée-là. Ouais. Et là, il voit son ami qui est là en sang, et puis il ne peut absolument rien faire parce que le policier, à la place d'appeler la police, il est en train de s'occuper d'essayer d'arrêter les autres jeunes qui, de toute façon, sont à terre et puis qui ont été... J'en tremblais tellement. Ça m'a fait réaliser, waouh, tu sais, on parle de profilage racial, il y a un spectre tellement large entre les gens, par exemple, qui ont simplement une intervention de routine qui se passe mal, et là, tu vois des jeunes qui se font tirer dessus par la police. Et je vais vous faire réfléchir à une seule chose, entre le moment où est-ce que le policier la pointe va voir ces jeunes-là, et le moment où est-ce que tout le monde est à terre avec une balle dans leur corps, il s'est passé exactement 62 secondes. Quand on vous dit que les choses peuvent dégénérer vite, c'est une réalité, c'est pour ça qu'on est là pour en parler. Et je crois qu'au cours de cette émission-là, une des choses qu'on va faire aussi, c'est de conseiller les gens sur qu'est-ce qu'ils doivent faire quand ils sont face à des situations comme celle-ci.
Absolument, c'est une des questions qu'on va te poser aujourd'hui, parce que tu as joué vraiment un rôle de vulgarisateur dans cette lutte, dans le fond, dans le moment, ça a duré. Mais avant, je te laisse Abby te poser la prochaine question.
Oui, mais pour rebondir, ça nous donne la chair de poule juste d'entendre l'histoire à nouveau. Puis je me rappelle aussi, j'ai entendu son histoire, puis qu'est-ce qui a créé un impact chez moi, c'est qu'il dit « si c'était moi le prochain ». C'était moi le prochain. Ouais, ouais. Puis si j'aurais juste agi d'une quelconque manière, genre lui aussi aurait reçu une balle cette journée-là. Mais c'est une histoire qui touche vraiment. Puis je voulais savoir, pour retourner un peu au profilage racial, il y a une thématique très... une thématique très...
Controversiale,
oui. C'est le sujet sur le racisme systémique au Québec. Donc, il y en a qui vont dire, oui, ça existe, il y en a qui vont nier l'existence du racisme systémique. Mais moi, je veux savoir, toi, est-ce que tu peux nous dire pourquoi est-ce que tu penses qu'il y a certaines personnes qui vont le nier? Parce que pour moi, ça existe, là. Même si parfois on entend nos autorités dire le contraire, mais qu'est-ce qui fait en sorte qu'on nie l'existence du racisme systémique?
Je vais te l'illustrer de manière simple. Personnellement, je vais te l'illustrer en parlant du profilage racial que moi, j'ai vécu, ok? Personnellement, je n'ai jamais été intercepté par la police pour une vérification de routine. Ça m'est jamais arrivé. J'ai 32 ans, je conduis une Mercedes, puis ça m'est jamais arrivé, ok? Donc, si je me fie seulement sur ma perception des choses, ben, je vais vous dire que ça n'existe pas. Je vais vous dire que le profilage racial, c'est juste une fabulation de quelques jeunes noirs qui font des mauvais coups. Mais il faut que je sois capable d'ouvrir mon regard autre que sur ma petite personne et de regarder la société en général. Et souvent, c'est ce que les gens ne font pas. Les gens sont vraiment focus sur eux-mêmes. Ils n'ont pas, pas les yeux tournés vers qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce que les autres ont vécu. Donc, beaucoup de personnes qui disent que le racisme systémique n'existe pas, c'est parce qu'eux, ils l'ont même, eux-mêmes jamais vécu. Et si toi-même, tu n'as pas vécu une situation et que tu ne t'intéresses pas à savoir comment les autres le perçoivent, tu ne pourras pas voir la réalité qui existe derrière ça. C'est ma réflexion là-dessus.
Non, mais c'est exactement ça, puis je pense d'où l'utilité de faire ce podcast, d'où l'utilité de faire la marche qui a eu lieu, les marches qui ont eu lieu à travers le monde, ça nous permet de vivre ce moment émouvant, de dire waouh, ça existe, de voir ces images-là. Et, mais tu as raison, c'est pas facile. Donc des fois, on a cette facilité de blâmer ceux et celles qui ne portent pas leur voix, qui ne font rien un peu pour le sujet. Mais c'est vrai que c'est difficile de se mettre à la place des autres quand on n'expérience pas nous-mêmes cette chose-là. Et je pense, mais encore une fois, l'utilité de continuer à parler.
Mais là-dessus, pour nos étudiants en droit, je vais vous dire, une des qualités les plus importantes que vous devez développer comme avocat, c'est de l'empathie. Et c'est difficile d'être capable de se mettre à la place des autres, à la place de vos clients, de comprendre la réalité qu'ils vivent. Pas simplement défendre quelqu'un et puis penser à l'argent que vous allez recevoir, mais d'être capable de vous dire, cette personne-là, ce qu'elle a vécu, je dois me battre pour elle, je dois la défendre. Et puis c'est une qualité que n'importe quel humain doit avoir, mais comme personne qui travaille dans ce domaine-là, c'est particulièrement important, surtout quand nous, on ne l'a pas vécu, pour être capable de savoir comment aider adéquatement les gens.
Oui, et de défendre du cœur aussi, de faire le tout en ce possible pour pouvoir défendre. Et ça me ramène à la prochaine question, qui je pense est une question qui intéresse tout le monde. Les gens ont envie de savoir qu'est-ce qu'on fait, Fernando, si jamais on est victime de profilage racial? Donc, je sais que tu en as beaucoup parlé dans les médias, au marathon et un peu partout, mais si tu peux nous résumer ça aujourd'hui.
Tu veux que je passe une heure pour vous expliquer?
Non, c'est vrai que j'ai
je vais y aller avec des conseils simples, ouais. Ok? La première chose, c'est que je conseille aux gens, surtout maintenant qu'on est en 2020, surtout que maintenant, dans un contexte où les gens sont au courant de leur droit de porter plainte. De tout ce que vous pouvez vous souvenir de ce que je vais vous dire aujourd'hui, c'est le conseil le plus important. Parce que le plus de personnes qui se lèvent et qui disent, lèvent la main et qui disent « on est victime », voilà qu'est-ce qu'on a vécu, ça emmène d'autres personnes aussi à faire la même chose. Vous allez voir que tous les mouvements d'importance qui ont eu lieu dans les 10 dernières années, c'est des mouvements de masse. C'est une personne, après ça c'est une ville, après ça c'est un pays, après ça c'est le monde entier qui se lève pour dire non à une situation. Et vous allez voir que même au niveau du Black Lives Matter, il y a des endroits dans le monde où est-ce que il y a aucun problème nécessairement de racisme, les gens se lèvent pour dénoncer, ils se lèvent pour suivre en fait la vague mondiale. Donc je veux dire aux gens, vous êtes victime de profilage racial, portez plainte en déontologie policière, portez plainte devant la commission des droits de la personne, contestez vos biens au niveau de la cour municipale et de toutes les cours, et puis prenez-vous un avocat si vous êtes accusé de criminel, c'est le conseil le plus important. Puis surtout, j'ai fait beaucoup de vidéos là-dessus dans les dernières semaines, dans les derniers mois, au niveau de conseils que je donne aux gens quand ils seront interceptés. Soyez au courant de vos droits. Okay? Je pourrais pas prendre le temps ce soir de tout vous expliquer, mais soyez au courant de vos droits. Intéressez-vous à cette chose-là, parce que la meilleure arme que vous avez quand vous faites intercepter contre le policier, c'est la connaissance. Si vous savez quoi faire, vous allez savoir comment vous protéger et en même temps comment réagir et revendiquer vos droits par la suite.
En d'autres mots, écoutez nos podcasts.
C'est
totalement vrai. Et moi, j'ai une question avant de finir. Tu sais, sûrement, tu as dit que tu ne peux pas tout nous dire, mais est-ce qu'il y a un endroit où nous pouvons aller, tu sais, exemple des jeunes qui ne savent pas, où nous pouvons aller pour nous renseigner, ou exemple, où nous pouvons aller pour savoir où je dois porter plainte? Est-ce que c'est chez la police? Mais c'est la police qui m'a arrêté. Est-ce que je dois vraiment aller porter plainte?
Je t'invite vraiment à suivre, surtout le site internet de la clinique juridique de Saint-Michel. Nous, la décision qu'on a prise par rapport au mouvement, c'est que c'est sûr, on a une mission d'accessibilité à la justice, mais on a décidé de faire du profilage racial, de l'inclure dans notre mission. Donc, nos actions, on a une branche complète qui est dédiée justement à ça. Je vais quitter la radio tantôt, puis j'ai une équipe de 12 étudiants que je vais tantôt, qui eux vont travailler exclusivement pendant toute la session justement pour vulgariser tous les moyens et toutes les... tout ce que vous devez faire quand vous êtes face à ces situations-là. Donc, allez sur notre site internet. De mois en mois, vous allez voir qu'il va se remplir pour vous conseiller là-dessus.
Merci beaucoup, Fernando. Merci donc au cofondateur de la clinique juridique Saint-Michel pour ce témoignage, pour répondre à nos questions. Alors, comme tu as dit, Fafa, comme tu as dit, Ali, il faut continuer à écouter notre podcast, il faut continuer à suivre même la clinique juridique de Saint-Michel sur les réseaux sociaux.
Si vous posez la question autour de vous, combien y a-t-il de races sur la Terre? La réponse est à peu près toujours la même. Il y en aurait quatre, chacune déterminée par la couleur de la peau et chacune correspondant à un continent. Eh bien, ce que je vous raconte là est complètement faux. Le problème, c'est qu'un très grand nombre d'entre nous pensent cela, et pire encore, les races pourraient ne pas être tout à fait égales entre elles. Alors comment est-ce qu'on est arrivé à croire cela? Et à le croire encore aujourd'hui, faisant vivre ainsi en permanence le racisme?
Maintenant, nous allons appeler notre premier invité, notre deuxième invité, donc qui est professeur Victor Harmony, professeur de sociologie à l'UQAM, mais également l'un des rédacteurs du fameux rapport sur les interpellations policières à la lumière des identités racisées des personnes interpellées. Merci énormément, monsieur Victor Harmony, d'avoir accepté l'invitation. Donc, bonsoir.
Ah, bonjour, merci de m'avoir invité.
Merci de faire confiance à la voix de la jeunesse. Merci de faire confiance à la clinique juridique de Saint-Michel dans sa mission de venir mettre la lumière sur le profilage racial. Voilà, donc qui est le sujet de l'heure, mais la réalité de toujours. Première chose que j'aimerais parler avec vous, professeur, et d'ailleurs, merci d'avoir accepté. On sait que vous êtes très occupé, très chargé, mais c'est l'honneur pour nous. S'il vous plaît, si vous pouvez nous définir le profilage racial. Donc, du point de vue de votre profession de sociologue, c'est quoi le profilage racial pour ceux et celles qui ne le comprennent toujours pas?
D'accord. Écoutez, le profilage racial est une forme de discrimination. Ça, il faut commencer par cela, c'est-à-dire c'est une des façons de discriminer sur la base de la soi-disant race des individus. Maintenant, il s'agit d'une discrimination de type indirect. C'est-à-dire, vous avez les discriminations directes, c'est-à-dire les paroles haineuses, les gestes racistes ouvertement discriminatoires. Mais vous avez aussi des façons de faire, des façons de penser, des biais qui sont implicites, qui sont un peu dans le comportement. Et tout cela fait partie d'un système, d'une structure qui produit des résultats discriminatoires et racistes, même si les individus qui sont dans le système n'ont pas l'intention de faire du racisme. C'est-à-dire, c'est la façon de s'organiser, de se comporter, qui fait en sorte qu'on est collectivement raciste.
D'accord, donc ça serait la définition du profilage racial. Ma collègue Abby qui est avec moi, elle voulait aussi poser une question. Je te laisse aller.
Oui, je sais qu'il y a différents types de profilage, donc racial, social, politique. J'aimerais savoir si vous pouvez nous donner vos définitions de ces différents types de profilage et pourquoi c'est important de faire la différence.
Oui, tout à fait. Et évidemment, le profilage politique, par exemple, correspond justement au fait de viser de façon indue et disproportionnée les personnes qui appartiennent à tel ou tel groupe ou obéissance idéologique ou posture par rapport à quoi que ce soit en termes politiques. Et celle-là est plus facile à saisir, elle est problématique en soi bien sûr, comme toutes les formes de discrimination, mais là, quand on va vers le social et le racial, là, effectivement, on rentre dans le domaine des identités sociales, des façons dont la société organise les populations et les classifie et les stigmatise aussi, par exemple, en termes de d'appartenir à une population plus pauvre ou moins nantie. Alors, ce qui concerne justement l'entrecroisement de la discrimination du profilage social et racial, c'est justement parce que là, on va associer certaines personnes qui appartiennent à certains groupes racisés ou minoritaires à une sorte de menace publique ou de comportements dangereux ou suspects. Mais il faut distinguer effectivement que le profilage social se base surtout dans la classe sociale perçue de l'individu en question, alors que le profilage racial correspond justement à la perception de la part de, par exemple, d'un policier, de ce qui est supposément la race, l'apparence raciale, l'appartenance de l'individu en question.
Et qu'est-ce qu'on est du type de profilage qui est le profilage politique, qui est également une des catégories qu'on a devant nous? Que pouvez-vous dire sur le profilage politique?
Ah ben justement, par exemple, on va voir, cela est moins courant, et en tout cas, on en discute moins dans les médias, par exemple, mais effectivement, lors des manifestations, lors des protestations, on peut aussi voir effectivement des pratiques, par exemple, policières, mais pas que policières, mais disons qu'en ce qui concerne ce type d'opérations de lutte contre le désordre social ou les attaques à la paix publique, un peu comme on le voit du côté de la police. Alors à ce moment-là, on va associer certaines idéologies, encore une fois, à l'idée de danger social, de remise en cause de la stabilité, de la paix, de l'ordre. Et à ce moment-là, on va viser certaines idéologies plus que d'autres. On le sait bien que parfois, dans tous les États, au Québec, en Ontario, dans le reste du Canada, aux États-Unis, souvent on va viser du côté de la police beaucoup plus les manifestations de gauche, anticapitalistes par exemple, que celles des conservateurs. Donc alors là, vous avez déjà une forme de profilage politique.
Mm-hmm. Alors oui, bonjour Monsieur Harmony, c'est Fatima et je voudrais vous poser la troisième question qui est: quelle est la différence entre le racisme systémique et le racisme individuel?
Surtout qu'en ce moment, c'est un peu la crise, c'est la question qui revient tout le temps. Le racisme systémique, c'est quoi? Et surtout quand on voit que nos autorités, voilà, ici au Québec, des fois, n'arrivent même pas à admettre ce principe de racisme systémique. Donc, effectivement, si vous pouvez répondre à la question de notre cher papa, qui est la différence entre le racisme systémique et le racisme individuel.
Ah oui, tout à fait, tout à fait. Justement, c'est là, je pense, la clé de la question, parce que oui, c'est facile de dire on n'aime pas les comportements racistes. Il faut punir les personnes qui sont racistes en tant qu'individus, qui ont des valeurs racistes, qui ont des comportements racistes, qui tiennent des propos racistes. Ça, c'est relativement, il y en a beaucoup, malheureusement, dans les sociétés comme ça, dans les forums d'Internet, etc., dans la rue aussi, mais en même temps, c'est facile de les cibler, parce qu'on peut dire, bon, les personnes qui tiennent des propos haineux, on va les punir. Parfait. Mais alors, qu'est-ce qu'on fait d'une institution, d'une organisation, dans l'ensemble de mécanismes de la société qui produisent collectivement des effets discriminatoires et racistes, mais là, les individus qui font partie de ces systèmes, les fonctionnaires, peut-être même les policiers, les juges, les employeurs, ils ne sont pas nécessairement eux-mêmes porteurs personnellement, individuellement, des valeurs racistes. Ils sont peut-être des personnes qui sont tout à fait ouvertes à la diversité, qui n'ont aucun problème avec quoi que ce soit. Mais ils font partie d'une organisation, d'une façon de faire, d'une façon d'intervenir, hein, qui produit ces résultats parce que les normes sont établies comme ça, parce qu'il y a des biais. On va penser, par exemple, si on est dans la police, que les personnes de certains groupes minoritaires appartiennent plus fréquemment à des soi-disant gangs de rue. Alors, la couleur de la peau devient, dans l'esprit de ces personnes, une raison pour intervenir. Alors, c'est un biais tout à fait injustifiable, et pourtant, ce sont des généralisations abusives de cette sorte-là qui finissent par produire des effets discriminatoires. Alors que l'individu lui-même, peut-être, on lui pose la question, et la personne va dire « Ah non, je ne suis pas raciste, je n'ai pas de problème avec les gens de telle ou telle ethnicité. » Mais c'est effectivement s'attaquer aux structures, ce qui le rend très difficile, parce qu'il faut non seulement penser à modifier les structures, hein, la police, le système judiciaire, le marché du travail, mais il faut aussi convaincre les gens qui bénéficient, qui ne subissent pas la violence systémique, il faut les convaincre que ça existe. Parce que vous l'avez mentionné, souvent les gouvernants, les personnes de la majorité vont dire « mais moi, je ne vois pas ça, il n'y a pas de racisme chez nous. » Parce qu'ils ne le voient pas, c'est invisibilisé. Alors il faut le rendre visible par des recherches, par des données.
Et exactement, comme vous dites, il y a des personnes qui pensent que ça n'existe pas, mais je pense qu'avec votre rapport, on peut voir à la fin que oui, ça existe, qu'on peut voir qu'il y a du profilage racial. Puis à la fin de le rapport, vous et vos collègues, vous faites 5 recommandations. Puis dans le site de la SPVM, on peut voir aussi que la SPVM elle-même, elle a répondu à ces recommandations. Mais est-ce que vous pensez, vous, que les recommandations ont vraiment été prises en considération jusqu'à présent ou c'est encore en travail? Qu'est-ce que vous en pensez là-dessus?
C'est une bonne question. Je pense qu'ils ont commencé à admettre le problème, pas tout à fait, mais en partie. Ils veulent avancer vers certains changements. Ils ont adopté une politique d'interpellation qui était absolument nécessaire. Jusque-là, la police de Montréal, en fait, toutes les polices du Québec fonctionnaient sans valise. Donc, les policiers pouvaient un peu interpeller n'importe qui, à base de n'importe quelle raison, ce qui donne lieu, effectivement, ça ne peut que donner lieu à des abus, parce que bon, c'est le policier qui décide que vous êtes dangereux ou suspect parce que c'est votre apparence, et ainsi de suite. Maintenant, il y a plus de balises. Mais ça ne résout pas le problème de fond. Le problème de fond, c'est effectivement une façon de fonctionner. Et c'est pas que la police de Montréal, c'est toutes les polices doivent modifier leur approche à la question de l'insécurité, c'est-à-dire la lutte à rendre la société plus sécuritaire, c'est que tout le monde, y compris les membres des minorités racisées, se sentent à l'aise. Parce que quand on vit dans une société dans laquelle les gens racisés ont peur de la police, alors on peut se poser la question à quoi ça sert la police, hein, parce que ça combat le crime, mais en même temps ça rend insécure les gens qui sont censés être protégés par la police.
Exactement. Alors, je vous remercie énormément, professeur Victor Harmony, et j'invite nos auditeurs, les gens qui vont écouter le podcast, à aller sur le site de la SPVM pour lire les recommandations que vous et vos collègues ont apportées suite au rapport. Merci de faire le travail que vous faites et on espère que ce problème se réglera au fur et à mesure à travers l'éducation, à travers la conscientisation sociale. Alors, merci énormément de votre temps, professeur, et à très bientôt.
D'accord. Merci beaucoup. Au revoir.
Descendez de la voiture.
Yostar, ça va?
Il t'a dit de pas bouger. Khalil, je suis sérieuse, retourne à la
rue.
Vous l'avez tué!
Que j'ai le plaisir de regarder, qui parle de l'histoire d'une jeune fille qui s'appelle Star, qui est raccompagnée par son amie, et malheureusement, ils sont fait interpellés par la police, et son amie se fait assassiner devant elle. C'est un film et en même temps un roman qui a été écrit par Andy Thomas, dans lequel on voit l'impact que cette mort a sur la vie de Star, et surtout comment ça va se finir, parce que il sera jugé le policier, et ben, je ne vais pas vous dire tout ce qui va se passer, sinon vous n'allez pas regarder, mais il y aura un verdict. Et je pense que ce film, ça touche beaucoup les jeunes d'aujourd'hui, et ça touche beaucoup le mouvement qu'il y a aujourd'hui, parce que je pense que carrément ce film, ça explique beaucoup comment ce qui se passe nous impacte. Et alors, moi, c'est un film qui m'a beaucoup marqué, et que quand je l'ai regardé, j'ai pleuré durant des heures, des jours, et je me rappelais en classe, j'étais là.
C'est vraiment, tu l'as vu à l'école, tu l'as vu en classe?
Non, je l'ai vu sur un site, je ne dirais pas comment, un site, mais sur un site, ouais.
D'accord,
mais est-ce que vous avez lu des livres ou vous avez regardé des tweets, quoi que ce soit, qui vous a marqué cette semaine?
Ben, récemment, mettons que des livres ou des films, j'en ai pas vraiment regardé, mais je m'intéresse beaucoup à suivre des artistes sur Instagram qui font partie de la communauté noire. Puis récemment, j'ai assisté à une soirée de poésie à Hochelaga, puis il y avait de la peinture live, puis je pense que son Instagram, c'est Made in China. Pas China, genre le pays, mais genre China. Puis dans le fond, sa peinture, c'était vraiment pour représenter la beauté noire. Donc ça, c'était vraiment beau, ça m'a vraiment créé un impact. Donc oui, c'est ça que j'ai vu récemment.
Ah ouais, je trouve ça très intéressant parce que parfois, surtout moi, j'ai vraiment des préjugés sur la poésie. J'en fais à l'école, j'aime pas vraiment, mais j'ai vraiment des préjugés par-dessus. Mais je pense que j'allais voir Made in China et je pense que ça va m'intéresser peut-être. Et toi, Cuba?
Alors, tu sais, moi, je viens de commencer ma session. Donc, en ce moment, ce que je lis, c'est des livres de droit. Par contre, je peux vous parler du dernier livre que j'ai lu, qui est très en rapport avec ce qui se passe. Donc, je sais, Lina, tu connais, c'est le professeur Frédéric Bérard qui vient de sortir son dernier essai. Donc, La Terre est une poubelle en feu. Puis, c'est vraiment le dernier livre que j'ai lu, le dernier essai, qui parle justement des changements climatiques, du populisme, de qu'est-ce qui se passe en ce moment et des pistes de solutions, donc des réflexions également. Donc, c'est très, 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 un livre très d'actualité, un essai d'actualité que je vous conseille de lire. Mais sinon, on se planche dans les livres de droit en ce moment. Moi, je lis la jurisprudence, je ne sais pas pour vous.
Ça a l'air très intéressant.
C'est ça ce que je fais. Merci beaucoup, Fava, pour ta chronique. C'est super, super intéressant.
Qui se font du mal. Et je pense aussi donner des amendes.
Pour donner des amendes.
Ouais. C'est vrai, je comprends ça. Et aussi, mais c'est ça, ouais. Mais c'est ça. Oui, c'est juste pour, tu sais, rendre la société plus juste. Tu sais, en protégeant les moins faibles, les plus faibles.
Les plus faibles, exactement. Donc, la mission de la police, il faut quand même comprendre qu'il y a plusieurs corps policiers. Donc, il y a le SPVM, c'est ce qu'on connaît le plus, mais il y a aussi la Sûreté du Québec, donc la SQ. Mais si on se concentre plus sur la SPVM, que c'est ce qu'on voit le plus souvent, on peut voir sur la voie de la police que leur mission, c'est de protéger la vie et les biens des citoyens. Donc, tu l'avais dit, maintenir la paix et la sécurité, prévenir et combattre le crime et faire respecter les lois et les règlements. Donc c'est vraiment ça qui est en les bons mots de ce que la mission du SPVM est. Donc je vais continuer en parlant sur le rôle de la police, comment elle a évolué de avant jusqu'ici. Donc au début, on pouvait vraiment voir que la police, ben, dans le fond, c'était comme pendant la période de la Nouvelle-France, mettons, quand on a pu voir la première milice qui a été créée, puis c'était vraiment pour protéger le territoire de l'ennemi, puis vraiment des futurs dangers et tout. Mais au fil du temps, la police s'est vraiment plus concentrée sur les citoyens et sur le quartier. Donc c'est vraiment vers les années 90, donc 95, 97, qu'on peut voir que la police ici à Québec a vraiment plus pris une approche communautaire. Donc c'est quoi une approche communautaire? C'est vraiment, elle a pour but de créer des liens étroits de collaboration avec les populations desservies, donc avec nous, mais elle comprend qu'elle ne peut pas agir seule, fait qu'elle a besoin des autres personnes, d'autres organismes, de notre société. Donc c'est pour ça qu'on peut voir que cette approche est différente, parce qu'elle va aborder les problèmes d'une manière différente pour assurer la sécurité de ses citoyens. Fait que c'est vraiment pas nécessairement dans la mentalité « on va aller chercher les criminels », tu vois.
La police a évolué. Et moi, comme tu sais, j'ai appris quelque chose aujourd'hui. Les quatre principales approches de la communautaire de la police. Alors, la première approche, c'est le rapprochement avec le citoyen. Tu sais, le policier, même si quand tu es dans un parc, tu vas aller lui parler. Si quand tu n'arrives pas à t'attraper. Et puis, il y a le deuxième, le partenariat avec d'autres institutions. Comme quand les policiers viennent nous voir à l'école, tu sais, à l'école secondaire. Moi, je me rappelle que les policiers viennent nous voir en secondaire 1 et 2 pour nous expliquer, tu sais. Ça, c'est juste des trucs comme ça. Et moi, je pense que c'est ça. Je pense en quelques minutes.
Ouais, ça c'est bon. Mais là, tu nous as parlé de l'approche communautaire, mais est-ce qu'on peut dire vraiment qu'il y a une approche communautaire de la part de la police, tu penses?
Moi, je pense que ça évolue. Ben, parce que je fais du sport, Joseph Papineau, on fait du sport et on a des tournois avec les policiers viennent, on joue tout ça bien ensemble. Je pense que c'est une belle manière pour nous de connaître les policiers. Si, ils ne sont pas avec leur uniforme, ils sont là avec leurs crampons, on est là, on joue, on fait des équipes, on se mélange et tout. Et moi, je pense que c'est une meilleure manière de venir envers nous, les jeunes, surtout les jeunes qui font du sport, parce que c'est plutôt nous qui restons chillés au parc tard, c'est nous. Et il y a aussi, tu sais, quand ils viennent dans nos classes pour nous parler, tu sais, moi, ça commence au primaire, parce qu'on avait des ateliers d'unité sans violence et tout, ils venaient nous dire pour résoudre un problème, faire ci, faire ça, si c'est trop dangereux, tu appelles la police et tout. Moi, je pense avec des petits trucs comme ça, et on est en prison dans les fêtes. Dans les fêtes, hein, tu sais, quand tu demandes pour se prendre une photo, et comme oui, ok, on s'est passé et tout. Et c'est ça, des trucs comme ça, des trucs simples et faciles. On demande pas de venir pour le temps, hey, chill, hey, chummy, oh, on a des fêtes. Des trucs simples et rapides comme ça qui font que si on se sentir plus en sécurité et on va vouloir aller vers la police. C'est ça, vouloir aller vers la police, c'est ça qui est important.
Oui, mais je suis contente que tu aies des bonnes expériences. Moi, de mon côté, si je me rappelle, au secondaire, il y avait aussi le mini-basket, parce que genre, c'était vraiment comme un match entre les étudiants du secondaire puis les policiers du quartier. Donc, je pense que de ce côté-là, il y a plusieurs personnes qui ont eu des bonnes expériences avec les policiers, mais malheureusement, je pense qu'il y en a plusieurs aussi qui ont eu des mauvaises expériences avec les policiers, puis ils n'ont pas tort, parce qu'on peut le voir à travers les articles qui sortent. Donc, par exemple, Le Devoir a sorti un article où est-ce que... On peut voir que Saint-Michel fait face à un problème systémique de profilage racial. Puis, actualité UQAM aussi parle sur qu'il y a le fait qu'il y a un rapport troublant sur le profilage racial. Fait que je pense que c'est là où est-ce qu'on peut vraiment faire une petite critique à l'approche communautaire et se dire qu'elle n'a pas nécessairement marché. Puis, je pense que le rapport de l'invité que nous avons eu précédemment, du sociologue Harmony, son rapport, il se nomme « Les interpellations policières à la lumière des identités racisées des personnes interpellées ». Dans son rapport, on peut voir que les personnes noires sont arrêtées 4 fois plus qu'une personne blanche. Puis ça, c'est pour les PDQ, donc la police de quartier. Mais si on prend seulement l'escouade spécialisée, donc l'escouade Eclipse, elles, ils ont arrêté 5 fois plus des personnes noires qu'une personne blanche. Donc, on peut voir que ces squads qui sont, comme par exemple les squads Eclipse, que son mandat s'est vraiment concentré sur la répression du crime organisé, puis la collecte de renseignements et les présences nocturnes, et que c'est vraiment une approche plus traditionnelle qu'on voyait de la police. Eux, c'est vraiment, on peut voir que, au niveau de l'approche communautaire, c'est vraiment pas ça. Puis c'est là où on peut voir un paradoxe entre la nouvelle approche communautaire de la SPVM puis l'approche un peu plus interventionniste qu'on voyait avant. Puis ça, ça fait en sorte qu'il y a deux types d'interventions. Donc les personnes, elles sont un peu mélangées à un moment donné. Genre, pour savoir, il y a une incompréhension et un mélange de citoyens. Parce qu'il y en a qui peuvent se sentir justement harcelés, discriminés par ces interpellations parce qu'elles sont basées souvent sur la race. Puis c'est à ce moment-là où est-ce qu'on peut voir que les conséquences, c'est le profilage racial. Donc à ce moment-là, je pense qu'il y a vraiment comme un problème, une problématique. Et c'est une des critiques qu'on peut faire à l'approche communautaire aujourd'hui.
Ça, c'est totalement vrai. Je suis totalement d'accord avec ce que tu dis. Parce qu'au fur et à mesure, on remarque que, peut-être pas maintenant, on en parle beaucoup, mais ça se continue et on voit encore des jeunes qui sont encore victimes, malgré ce qu'on a sait qui se passe à travers le monde, qui sont encore victimes de profilage racial. Et comme je vous l'ai dit, avec les réseaux sociaux, on filme et on est comme, mais rien n'a changé encore, malgré tout ce qu'on fait, malgré tout ce qu'on dit.
Ouais, mais comme rien n'a changé, mais en même temps, ça fait partie de notre histoire. Puis l'évolution, elle se fait peu à peu. Puis ça fait pas longtemps que l'esclavage a fini. Ça fait pas longtemps que la ségrégation elle a fini. Donc je pense que ça évolue d'une certaine manière, puis maintenant c'est vraiment le moment où est-ce que genre ok, go guys, il faut mettre un plan d'action.
Totalement.
Merci beaucoup Abigail, je crois que c'est excellent comme chronique parce que ça nous permet de commencer à comprendre d'abord c'est quoi la police et ses rôles et qu'est-ce qu'on doit s'attendre de cette fameuse police. Et là, elle s'est jointe à nous, donc Lina qui est également bénévole à la clinique juridique Saint-Michel. Donc ça va Lina?
Oui, ça va bien, toi?
Je suis contente de parler avec toi ce soir. Alors Lina, dis-nous, raconte-nous en fait, au niveau du profilage racial, pardon, comment ils vivent ça les victimes en fait? C'est quoi le profilage racial par rapport à eux?
Ben dans le fond, je pense que c'est important, on a mentionné l'esclavagisme un petit peu deux ou trois fois. Je pense qu'il est important de faire aussi, c'est de s'assurer d'extérioriser, dans le fond, de sortir un peu du moule américain, de l'histoire américaine, même si l'esclavage, ça a aussi existé au Canada, et de définir ce qui se passe au Canada, ce qui se passe au Québec. Je pense que c'est primordial pour ne pas non plus qu'on amalgame les policiers aux États-Unis, les policiers au Québec. Ils n'ont pas la même formation. C'est pas nécessairement les mêmes buts qu'on recherche. Dans le sens que chaque pays, chaque ville, chaque endroit a son histoire, a son contexte sociologique, a ses problèmes. Donc je pense que c'est vraiment important de parler de manière générale, mais de parler de manière spécifique à Montréal. C'est ça qui nous touche, c'est ça qui touche Saint-Michel, donc c'est ça je pense qui est le plus important. Mm. Puis dans le fond, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'une victime de profilage, c'est d'abord une victime du processus judiciaire. Donc la personne qui vit du profilage racial, après ça, ça ne s'arrête pas là. Après ça, elle va continuer à être une victime du processus. Qu'est-ce que je veux dire par là? C'est que cette personne, elle doit se défendre devant un juge, devant un procureur qui déposera de la preuve contre elle. Donc cette personne doit prouver qu'elle a vécu du profilage. Cette personne qui a vécu une expérience traumatisante doit venir de l'avant et montrer en quoi, comment, où, comme, c'est qui ils ont vécu du profilage. Donc le fardeau de la preuve, il repose sur les épaules de la partie qui allègue qu'elle a vécu du profilage. Et c'est ça qui est plus difficile. Puis dans le fond, on va pas se mentir, je veux dire, ça va être rare qu'un agent de la police va dire « J'ai arrêté telle personne parce qu'elle est noire, j'ai arrêté telle personne parce qu'elle est arabe, parce qu'elle est autochtone, parce qu'elle est asiatique, peu importe. » C'est beaucoup de la preuve qui va être indirecte. Ça va pas être quelque chose de direct. Donc c'est important aussi de prendre ça en considération. Pourquoi c'est difficile un petit peu de prouver que j'ai été victime de profilage racial? C'est parce que ça va pas être tatoué sur ma face, on m'a arrêté parce que je suis noire. Donc ça c'est, il faut vraiment faire attention à ça. Donc le juge il va devoir considérer toute la preuve de manière globale, puis il va vraiment devoir se livrer à une analyse qu'on appelle circonstancielle pour vraiment comprendre du cas par cas, puis vraiment comprendre est-ce que dans ce cas-ci la race a joué. Est-ce que la race de la personne, son apparence physique, son appartenance, comme on parlait de la dernière fois, des différents types de profilage, son appartenance politique, son groupe social, est-ce que tout ça, ça a joué en faveur ou en défaveur de la victime? Donc je pense que c'est important de faire ça. Et Abigail, elle nous a trouvé des exemples super intéressants de jurisprudence sur le profilage racial.
Oui, évidemment. J'aime beaucoup le droit, mais c'est quoi jurisprudence?
Jurisprudence, on va expliquer c'est quoi la jurisprudence.
La jurisprudence, écoute, j'ai eu la même question que toi à ma première semaine où est-ce qu'on m'enseignait l'introduction au droit. Le professeur disait jurisprudence, législateur, je comprenais absolument rien. Mais dans le fond, jurisprudence, c'est vraiment juste des antécédents judiciaires. Donc, lorsqu'une personne va se présenter en cours devant les tribunaux pour n'importe quel cas, ça va devenir une jurisprudence. Donc c'est vraiment ça. Puis, je vais te donner des exemples de jurisprudence, de profilage racial. Puis comme disait Lina, c'est important qu'il y en ait, parce que c'est avec ces jurisprudences-là qu'on va pouvoir amener des preuves de « Oh, regardez, ça s'est déjà passé. Oui, ça peut arriver. » Parce que s'il n'y en a pas, tu ne peux pas vraiment te baser sur quelque chose.
Donc, ça peut te pas voir comme des maladies qui existent déjà. Si on a des symptômes, ah ouais, ça existe, des symptômes qui ressemblent à cette maladie. La maladie est déjà écrite, elle existe. Donc, pense à la jurisprudence comme des pathologies qui existent
déjà. Des exemples.
Voilà,
des exemples. Ouais, c'est
d'enfants réels, ils sont passés, c'est des histoires. Ouais.
C'est ça. Donc, une première jurisprudence, donc un premier exemple, c'est vraiment une décision de la Cour municipale du Québec où M. Charles, âgé de 37 ans, a été arrêté pour entrave à un agent de la paix. Donc, celui-ci, après, il a vraiment été acquitté par la cour municipale. Puis, on a conclu que deux agents du service de police de la ville de Montréal, donc du SPVM, ils ont fait du profilage racial. Donc, je vais te citer qu'est-ce que le juge a dit. Il a dit « Les explications invraisemblables fournies, donc le fait que la description du propriétaire de la voiture ne correspond pas à celui du monsieur en question, par les policiers, pour justifier leur démarche, soulève une appréhension raisonnable de profilage racial. » Donc, on peut voir ici qu'un juge de la cour a reconnu le profilage racial dans ce cas-ci. Un autre exemple, ça va être la décision CDP contre Pelletier et Caron, donc c'est une dame de la communauté noire qui était au volant de sa fourgonnette avec ses deux fils jumeaux âgés de 17 ans. Et ils ont été interceptés par la police de Québec. Et les agents, ils n'ont pas seulement vérifié l'identité de la madame, mais ils voulaient aussi identifier l'identité de leur fils en arrière, qu'ils étaient là. Puis ils disaient comme prétexte qu'ils soupçonnaient l'implication des jeunes noirs de proxénétisme qui faisaient partie du réseau de la protection juvénile dans la région de Québec. Moi, je ne sais pas pour toi, comment est-ce que, juste en regardant les deux personnes...
Tu dis, oh là là, je t'ai vu.
Exactement. Donc, mais heureusement, il a été décidé par le comité de déontologie policière du Québec qu'en absence de motif valable, l'interception du véhicule de la plaignante ainsi que la vérification de son identité était fondée sur la race des occupants. Donc, encore une fois, on peut voir que, genre, les tribunaux ont reconnu le profilage racial, puis non seulement ils l'ont reconnu, mais on peut voir aussi que ça venait en contravention de l'article 5 du code de déontologie policière. Donc, c'est vraiment sur ces codes-là qu'il faut se baser pour trouver des preuves aussi lorsque tu penses que tu as été victime de profilage racial.
Présenté par la Clinique juridique de Saint-Michel,
en collaboration avec le Forum jeunesse de Saint-Michel,
Néolabs, la Ville de Montréal,
et en partenariat avec les Alliances pour la solidarité et le ministère du Travail, de l'Emploi et de la solidarité sociale.
Et tu sens que tu as été victime de discrimination, victime de profilage racial, même si c'est juste une petite amende, même si c'est juste un petit quelque chose, il faut dénoncer, il faut porter plainte, il faut se demander c'est quoi mes droits, pourquoi j'ai vécu ça, en quoi le policier avait le droit de m'arrêter pour aucune raison. Tu sais, se poser ce genre de questions parce que les jurisprudences, les cas judiciaires, comme, tu sais, c'est des preuves, c'est des histoires, c'est des écrits qui vont rester, ça va toujours rester. Puis plus il y en a, plus les juges vont être capables de reconnaître ça, c'était du profilage.
C'est comme la discrimination sexuelle.
Exactement.
Exactement comme la discrimination sexuelle.
Donc, tu sais, plus on en parle, plus il y a des cas, plus il y a des victimes, plus on va être capable.
Plus on s'entraîne à bien gérer.
Exactement.
Porter plainte.
Donc, exactement. Donc, je vous dis aux jeunes, si vous sentez que vous avez vécu de la discrimination, portez plainte, allez voir une clinique juridique, parlez de vos droits et. Espérons pour le mieux.
Ouais. Merci beaucoup Lina, merci Abigail, merci Papa,
merci à vous.
Merci encore une fois à nos partenaires, le Forum Jeunesse Saint-Michel, la Ville de Montréal, Néolabs. Et puis on vous dit au prochain podcast.
J'aimerais aussi remercier d'autres bénévoles qui ont fait de la recherche aussi pour notre émission d'aujourd'hui. Oui. Donc Oumi et Kimberly, on tient à vous remercier, ainsi que Olivier Adama, Maître Olivier Adama, l'avocat qui a supervisé notre recherche. Je vous remercie à vous.
Donc à chaque émission, il va y avoir d'autres bénévoles de la clinique qui vont venir vous parler du profilage racial. Ça va être moi, ça va être Iba, ça va être Oumi, Kimberly, d'autres personnes du Forum de jeunesse qu'on va être très très contents d'accueillir aussi. Donc on espère que vous avez aimé ce premier épisode et que vous allez continuer avec nous.
Et juste pour préciser où on peut trouver l'émission encore, parce que vous avez vu, j'ai tellement parlé que j'ai oublié.
Ça, c'est sur les réseaux sociaux de la Clinique juridique de Saint-Michel, donc Facebook, Clinique juridique de Saint-Michel, Instagram, Clinique juridique de Saint-Michel, et puis un lundi sur deux, on va vous
retrouver. Et ça sera sur le site internet en forme de podcast, cgsm.ca/podcast.
Alors, évidemment, passez nous écouter.
Merci. Au revoir tout le monde.
On peut penser que le travail que j'ai fait avant, c'est bien.
Laurie a hâte de célébrer son anniversaire au resto. Elle y a pensé toute la semaine. Elle a invité ses amis. Elle a acheté une nouvelle robe. Elle s'est rendue au resto. Elle n'a pas pu rentrer dans le resto. Elle a dû ranger sa nouvelle robe. Elle n'a pas pu voir ses amis. Et elle y a pensé toute la semaine.
N'attendez pas de frapper un mur. Faites-vous vacciner. Le passeport vaccinal est maintenant exigé pour fréquenter certains lieux publics. Un message du gouvernement du Québec.
Êtes-vous locataire à Montréal?
Avez-vous des questions sur vos droits? Votre comité logement peut vous aider. Pour trouver le comité logement pour votre quartier ou pour plus de ressources, visitez le www.rclalq.qc.ca. Thank you.
Previously broadcast program.
Welcome to Queer Core on CKUT 90.3 FM, Montreal's only queer culture show that bridges any divide between queer sex and radical queer politics. Due to the fabulous nature of queer experience, tonight's program may contain sexually explicit or coarse language. You've been advised.
You are listening to From Embers, a weekly show on CFRC 101.9 FM about anarchist and anti-authoritarian ideas and practice. We are broadcasting from the traditional territory of the Anishinaabe and Haudenosaunee peoples, on land that has come to be called Kingston, Ontario, Canada, because of the thievery and brutality of the Canadian state and its empire-loving parents. From Embers is about fires, some real and some metaphorical. Fires started generations ago and tended to over the years. Little sparks all across this territory that we hope will grow, spread, and engulf the thieving state called Canada and the capitalist system that has plagued this land since the fur trade.